contre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre. Et un autre homme, qui portait aussi quelque chose, enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux, balbutiant
« Appelons, appelons au secours !»«
Qui viendrait ? Ton père ? Et s'il y a d'autres hommes et qu'on se jette sur lui ?»«
On pourrait avertir les domestiques ! Ta sonnette communique avec leur étage !»«
Oui, oui, peut-être, c'est une idée, pourvu qu'ils arrivent à temps. »
Raymond chercha près de son lit la sonnerie électrique et la pressa du doigt. Un timbre en haut vibra. Et elles eurent l'impression que, d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendirent. Le silence devenait effrayant, et la brise elle-même n'agitait plus les feuilles des arbustes.
« j'ai peur !»
répétait Suzanne. Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis... horrible, sinistre, un gémissement rauque, le râle d'un être qu'on égorge. Raymond bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras.
« Non, ne me laisse pas, j'ai peur !»
Raymond la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivi de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier. Dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net, clouée au seuil, tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à trois pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea sur les deux jeunes filles, les aveuglant de lumière, regarda longuement leur visage, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et deux brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut. La première, Suzanne courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre deux corps inanimés, couchés l'un près de l'autre.
« Père, père, c'est toi ? Qu'est-ce que tu as ? »
s'écria-t-elle, affolée, penchée sur l'un d'eux. Au bout d'un instant, le comte de Gesvres remua. D'une voix brisée, il dit
« Ne crains rien, je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit ? Le couteau, le couteau !»
À ce moment, deux domestiques arrivaient avec des bougies. Raymond se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur un fusil qu'elle savait charger et passa sur le balcon. Il n'y avait certes pas plus de 50 à 60 secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour qu'on ne pût s'en servir. Elle l'aperçut bientôt. En effet, qui longeait les débris de l'ancien cloître. Elle épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba.
« ça y est !»
proféra l'un des domestiques.
« On le tient, celui-là ! J'y vais !»«
Non, Victor, il se relève. Descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là. »
Victor se hâta, mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymond appela l'autre domestique.
« Albert, vous le voyez là-bas,